Vous écoutez France Culture.
À l'occasion du 450e anniversaire de la naissance de Shakespeare, France Culture s'associe aux événements organisés tout au long de l'année 2014 par la Société française Shakespeare. Pendant la semaine d'ouverture de cette année Shakespeare et au moment où le congrès international Shakespeare 450 se déroule à Paris pendant toute cette semaine à l'Odéon Théâtre de l'Europe, France Culture vous propose d'écouter des extraits du livre que Peter Brook vient de consacrer au grand dramaturge anglais. Voilà près de 70 ans que Peter Brook fréquente Shakespeare. Il n'a jamais cessé de revisiter les pièces de ce monument de la culture occidentale. Dans son livre « La qualité du pardon », il se penche sur son aventure de metteur en scène et nous guide à travers l'œuvre du dramaturge en s'interrogeant sur ce qui fait la force unique de son théâtre.
En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare de Peter Brook.
Quelle est la différence entre le théâtre et la vie? Si on dit qu'il n'y a aucune différence, c'est absurde. Pourquoi faire du théâtre? Si on dit qu'il y a une différence absolue, alors si la vie n'entre pas dans le théâtre, ça ne peut pas être très intéressant. Donc, il faut dire que c'est la vie dans une certaine forme. Alors, pourquoi le vide? Je crois que c'est parce que la vie, telle que nous le vivons, a... je crois, une caractéristique qui est la même pour tous les hommes partout, elle est trop compliquée. Pour comprendre, même pour mieux vivre, pour mieux sentir, quel que soit l'aspect, si c'est le programme d'une journée, si c'est la question des relations, si c'est les difficultés, nous vivons d'une manière trop compliquée. Alors, si le théâtre est là pour refléter, comme on dit, pour présenter, pour représenter la vie d'une manière ou d'une autre, il est clair que la grande différence entre la vie en dehors du théâtre et la vie à l'intérieur du théâtre est que l'intérieur du théâtre, cette même vie, soit vécue d'une manière moins compliquée.
Je confie la parole de Peter Brook à un jeune acteur, auteur, metteur en scène, Godefroy Segal, qui dirige le travail théâtral du point de vue de l'acteur qu'il ne cesse d'être et dans la foi des textes. Admirateur de Peter Brook, lecteur assidu de son enseignement, pratiquant l'art de la scène d'après l'espace vide, le grand livre du metteur en scène anglais, il est pour moi le résonateur idéal des pages de La qualité du pardon, le livre de réflexion sur Shakespeare que publie Peter Brook et que France Culture a choisi de donner à entendre à ses auditeurs. Aujourd'hui, deuxième émission, cuit dans ce pâté, en mitonnant Titus Andronicus, musique, Julia Robert, chant et viol d'amour.
Lorsque le cubisme se voyait accueilli, au début avec des hurlements d'incompréhension, Gertrude Stein y décelait un excellent exemple. Chaque siècle voit le présent à travers les yeux du passé. Aujourd'hui, nous commençons à reconnaître à quel point les siècles précédents ont influencé nos attitudes à l'égard de Shakespeare. Lorsque j'ai débuté à Stratford, la même poignée de pièces de Shakespeare y était reprise chaque saison. Les autres étaient moins populaires ou estimés de moindre intérêt. Les spectateurs appartenant à la middle class britannique étaient encore des victoriens qui, tout naturellement, regardaient les pièces comme les peintres romantiques les leur avaient montrées. Ma première production, Peine d'amour perdu, subit de plus l'influence de la réaction qui suivit la guerre contre 4 années de tristesse et d'austérité. Nous désirions alors de l'élégance et du charme, et je ne pouvais pas les trouver dans les inévitables habits élisabétains, ternes et convenus. Je découvris alors ce que T.S. Eliot a appelé la corrélation objective dans mon amour pour un peintre français du XVIIIe siècle, Antoine Watteau. Je réussis à l'imposer au décorateur, malgré lui. Et l'image de la scène offrait, sans aucun doute, une fraîcheur et un charme qui ne violentaient en aucune manière ce que le public attendait d'une comédie charmante et légère. Mais une chose m'intriguait chez Watteau. À part les galants élégants, les joueurs de lutte et la mélancolie à peine indiquée des arlequins, on voit toujours sur le côté un personnage mystérieux qui regarde en silence les festivités. Ah, c'était à la fois une énigme et une clé. Un jour, le message m'a paru clair. À la fin de Peine d'amour perdu, la joyeuse partie est soudain interrompue par un messager qui apporte à la princesse la nouvelle de la mort de son père. Dans chaque mise en scène, jusqu'à là, cela passait pour un moyen commode de conclure la comédie. C'était, semble-t-il, négliger l'intuition du jeune Shakespeare, que la légèreté, pour être vraie, a besoin de l'ombre, de l'obscurité. Ainsi, quant à la fin, tous les malentendus de l'histoire semblent se terminer dans la joie. Une sombre figure apparaît à l'horizon. Tout aussitôt, la fête est terminée. La princesse et sa cour doivent partir sans la moindre possibilité de renouer leur amour débutante avant toute une année de deuil. Les derniers chants sont teintés de mélancolie. Ils montrent l'été cédant le terrain à l'hiver. Et la pièce se termine en suspension sur cette phrase obsédante. Vous, par là. Nous, par ici. Nous pouvons déjà sentir ici un soupçon de la nuit des rois. Et de là, nous pouvons suivre une ligne droite jusqu'au moment où, dans Mesure pour mesure, Isabelle a toutes les raisons de se venger sur le meurtrier supposé de son frère. La ville sordide où l'action se déroule semble ne suggérer aucune pitié. Isabelle cherche dans les profondeurs obscures de son cœur. En un geste qui semble préfigurer Dostoïevski, elle tombe à genoux et demande grâce. À l'instant même, la pièce est inondée de lumière.
If love a sweet passion, why does it torment? If a bitter, oh tell me, whence comes my content? Since I suffer with pleasure, why should I complain? Who grieve at my fate when I know it is in vain?
Autre pièce dédaignée. Timon d'Athènes était ordinairement traité jadis comme un brouillon, comme un roi lyre du pauvre. On voyait Timon comme un vieux schnock, plutôt gentil, mais à la niche, non pas par ses filles, mais par ses créanciers avides. Rien d'étonnant à ce que la pièce ne fût que rarement montée. Elle n'offrait rien d'attirant aux acteurs, aux metteurs en scène et au public. Mais je vis un jour une production de Timon, et tout changea. L'acteur Paul Scofield nous montrait Timon comme un jeune homme à qui tout réussit, au sommet de sa carrière. Des années plus tard, alors que je cherchais une pièce de Shakespeare pour ouvrir notre nouveau théâtre des Bouffes du Nord à Paris, on m'avait suggéré Roméo et Juliette comme une évidence. Ce Timon me revint à l'esprit. Dans notre premier centre international, au retour d'un voyage en Afrique, se trouvait un jeune acteur brillant, vif, attirant et dynamique, François Martouret. Avec lui, la pièce fut aussitôt reçue par le public parisien avec une fraîcheur et une émotion qu'aucun des vieux acteurs connus n'aurait pu apporter. Les attitudes du XIXe siècle, à l'égard des affaires et du succès, s'y voyaient remises en question. L'attrait trompeur de la fortune, la ronde incessante des partenaires, des associés, la fragilité de l'amitié, tout devenait présent et vrai. Pas besoin de téléphone portable ou de cravate noire. C'est pour cette raison précisément que Yann Cotte intitula son livre « Shakespeare, notre contemporain ». C'était une pièce d'aujourd'hui. Titus. Titus Andronicus restait aux aguets dans mon inconscient depuis mes années d'étudiant, comme le monde de l'art devenait de plus en plus sensible à la force et à la beauté de ce qu'on appelait, avec une sorte de condescendance, l'art primitif, l'aspect barbare de la férocité romaine gagnait en splendeur. N'y aurait-il pas là, me demandais-je, dissimulé sous une histoire horrible, typiquement élisabéthaine, quelque chose qui viendrait du plus profond de l'inconscient de Shakespeare, encore inexploré? N'était-il pas, comme Picasso et le sculpteur anglais Jacob Epstein, artiste très admiré, doué d'une imagination nourrie par des images archaïques, enterré dans des limbes anciens? L'Angleterre normande n'oublia jamais complètement ses racines saxonnes. Le goût romain pour les sports sanglants, les gladiateurs, les combats contre les lions n'avait pas pu détruire l'héritage gréco-romain. Électre, Médée et les terribles gestes de catharsis qui sublimaient l'horreur. Je sentais que Titus pourrait acquérir une force nouvelle si la pièce parvenait à révéler un rituel souterrain avec la férocité présente dans les mythologies islandaises et saxonnes. En fait, nous pouvons trouver des éléments presque identiques dans la culture aztèque. Sous un soleil sans pitié, des cœurs qui battaient encore étaient arrachés avec des poignards en obsidienne. Si nous pouvions nous rattacher à ces traditions, une nouvelle beauté barbare pouvait jaillir et donner à Titus une noble sauvagerie. Très clairement, la pièce attendait patiemment de sortir de l'oubli. Et quand ce moment arriva, tous les éléments nécessaires se réunirent. Glenn Byam Shaw, directeur de la Royal Shakespeare Company, construisait toute une saison autour de Laurence Olivier et Vivienne Leigh. Aussi, ne rencontrait-il aucune difficulté pour assembler les meilleurs acteurs anglais de ce temps-là? Il me demanda si cela m'intéressait de mettre en scène une pièce. « Que diriez-vous de Titus ?»« À l'instant même, je dis oui !» J'étais en mauvais terme avec Laurence Olivier depuis certaines querelles pendant le tournage de l'Opéra des Gueux, mais grâce à la diplomatie de Vivienne Leigh, sa femme, nous nous sommes rabibochés. Une des grandes qualités d'Olivier était de donner une réalité très détaillée à des personnages qui pourraient facilement devenir des stéréotypes ou des abstractions. Il s'était servi triomphalement de son charisme et de son sex appeal pour changer le rôle-titre de Richard III, ce tremplin pour Cabot, en un despote irrésistible, séduisant, d'une intelligence brillante et d'autant plus dangereuse. Il avait aussi donné une présence inoubliable à des rôles considérés comme secondaires, Justice Shallow dans Henri IV et le mouleur de boutons dans Peer Gynt. Il attaquait chaque rôle comme une expérience nouvelle pour se donner une nouvelle voix et souvent un nouveau-né. Il plongea dans le rôle apparemment conventionnel de Titus le Vengeur et découvrit très vite un homme véritable. Mais par-dessus tout, ce fut Vivienne Leigh qui apporta une qualité que personne, jamais, n'aurait pu associer avec Lavinia. Elle trouva dans son malheur une beauté et une poésie. Lavinia, violée, les mains coupées, ce qui fut suggéré par un simple ruban rouge tombant de ses doigts jusqu'au sol, fit d'une méchante scène de grand guignol un fascinant moment de beauté. On aurait dit que la grâce et le talent de Vivienne avaient eu assez de force pour transformer cette pièce, de la même manière que le théâtre japonais transforme des cruautés horribles en légendes de kabuki. Pour les autres rôles, Glenn Byam Shaw avait rassemblé des acteurs remarquables. Aaron n'était plus seulement une sombre crapule, ce spécimen largement présent dans les pièces élisabéthaines. Naturellement, à cette époque-là, la possibilité d'avoir un acteur noir pour jouer un noir ne venait à l'esprit de personne. Un noir américain, Paul Robeson, avait joué Othello et c'était à peu près tout. On ne pensait aux Africains et aux Américains noirs que pour le jazz, le chant et la danse. Anthony Quayle, pour sa part, approcha le rôle avec respect et humanité. La tendresse de sa relation avec son bébé noir reste inoubliable. De la même manière, Maxine Audley sut trouver chez la féroce reine des Goths des profondeurs insoupçonnées. Pour moi, à cette époque, une pièce ne pouvait pas exister sans image. Il me semblait indispensable de développer dès le départ une métaphore scénographique pouvant nous conduire à un monde inconnu. J'avais déjà partagé des expériences enrichissantes en travaillant avec des décorateurs doués et imaginatifs. Et j'avais aussi découvert que l'évolution des formes d'une mise en scène, pour moi un long processus de tentatives et d'erreurs, se voyait souvent bloqué par la vitesse à laquelle les décorateurs découvraient leurs solutions. Pire que tout, ces solutions semblaient parfaitement convaincantes. Après quoi, plus tard, venait le moment où ces solutions n'étaient plus en harmonie avec les formes nouvelles qui, pendant les répétitions, surgissaient du travail des acteurs. La solution vint à Stratford, où je découvris une nouvelle méthode de travail qui dura de nombreuses années. Le chef des constructeurs et le chef des costumes étaient deux hommes très sensibles et compétents. Je vis que je pouvais travailler directement avec eux. Pour Titus, nous bâtîmes de larges colonnes en noir et or, avec des mécanismes simples mais très étonnants, que le machiniste fut enchanté d'avoir à inventer. Les colonnes s'ouvraient à différents niveaux pour révéler une chambre rouge sans ou une forêt touffue. Grâce à l'adresse des charpentiers, les fûts des colonnes classiques pouvaient même se balancer, suggérant des arbres obscurs. Le son devait être inséparable de ce que l'image évoquait. Les musiques tonales et atonales donnaient alors naissance à ce qui précéda l'électronique. Cela s'appelait musique concrète. Et je rendais visite au pionnier, Pierre-Henri, dans son studio parisien. Les techniques semblaient accessibles. En partant d'une plage sonore, on pouvait la façonner selon son bon plaisir, en changeant la vitesse et le niveau, en mixant, en combinant de plus en plus de pistes et en assaisonnant le reste à sa façon. Je fis quelques expériences en plaçant un microphone ordinaire dans notre piano, en tapant sur les cordes, sur le support en fer et en utilisant la pédale comme un instrument de percussion, si bien que tous les sons cachés du piano se réveillaient. En y ajoutant un rythme simple, cela nous donnait une marche des temps anciens et offrait à Laurence Olivier une entrée des plus impressionnantes. Et personne ne remarqua que les trois notes ainsi extraites du piano étaient en fait le début d'une chanson enfantine. Trois souris aveugles. Three blind mice. Pour Olivier, chaque rôle nouveau était particulier. Il me confia son ambition secrète pour la dernière scène, lorsque Titus prend sa revanche pour le viol de Lavinia en coupant en petits morceaux les enfants de la reine d'Ego pour en faire un pâté. Moment crucial de l'œuvre. La reine demande où sont ses fils et Titus lui répond « Là, cuit dans ce pâté. » Parmi tous les passages du mélodrame cru grossier, c'est peut-être à cause de cette réplique que la pièce passa longtemps pour trop grotesque pour être jouée. Olivier le prit pour son plus grand défi. Il savait que le public de la première à Stratford venait pour rire à cette pièce ridicule tout juste tirée du placard. Et ce passage marquerait le point culminant de la mise en boîte. Et par l'intensité de sa concentration, par la tension de sa voix, la première fut un succès. Il en fit un moment poignant de vérité. Après quoi, savourant le danger, l'appel de l'impossible, il renouvela cet exploit dans tous les pays, devant tous les publics pour lesquels nous avons joué. Et cela, au cours de notre longue tournée sur le continent. La tournée commença à Paris. La ville ne parlait que du couple. Mais tandis que nous traversions l'Europe jusqu'à Belgrade, jusqu'à Venise, une vraie tragédie se dessinait derrière les atrocités de la pièce. La santé mentale de Vivienne ne cessait de se détériorer. Tout commença lorsqu'elle se vit dans le film d'Elia Kazan, Un tramway nommé Désir. Karl Malden la grippait par la nuque, la poussait devant un miroir et braquait une ampoule nue sur son visage. Elle passait alors pour une des plus belles femmes du monde. Se voir ainsi révélée sans pitié à son âge véritable, elle ne put le supporter. Ses frissons demeurèrent cachés pendant les répétitions et l'excitation de la première. Et elle savait que sa grâce et sa beauté constituaient un atout essentiel pour aider le public à découvrir la pièce. Et puis, tandis que la tournée se poursuivait, Des manies, des accès de dépression, des hauts et des bas l'assaillir. Elle se ruait dans toutes les boutiques d'antiquités et au grand désespoir de Larry, des paquets de plus en plus volumineux et même des caisses s'entassaient dans leur chambre d'hôtel. À notre arrivée à Vienne, désespéré, il me demanda de l'aide. Je parlais à Vivienne avec fermeté, je lui dis « Tu dois voir un docteur ». À ma grande surprise, elle le prit avec le plus grand calme. « J'ai déjà refusé, me dit-elle, mais cette fois, c'est différent. J'ai un très vieil ami qui exerce ici. C'est un docteur. Si vous pouvez le trouver, je promets que j'écouterai tout ce qu'il pourra me dire. » Ce ne fut pas facile. Aucune mention de ce nom ne figurait dans l'annuaire téléphonique de Vienne. En cherchant dans le répertoire où les gens sont classés par profession, à la fin, on trouva quelqu'un dans une lointaine banlieue. Il y figurait comme auteur et traducteur. Hésitant, je montrai ce nom à Vivienne. « Oui, c'est lui !» s'écria-t-elle. J'osais faire remarquer, mais il n'est pas dit qu'il est docteur. Elle se mit à rire nerveusement, non sans charme. « Je t'ai eu ! Tu as dit docteur, mais tu n'as pas dit quel docteur. Tu as dit que tu voulais que je voie un docteur, c'est un docteur. Un docteur en philosophie. Oh, j'adorerais le revoir !» Elle s'étranglait presque de rire. Dès lors, les tensions de la vie quotidienne égalèrent, puis dépassèrent celles de la pièce. Le jeu de Vivienne commençait à en souffrir. À Varsovie, où travaillaient deux correspondants pour les journaux anglais, nous avions pour tâche quotidienne d'éviter que des rumeurs parussent dans la presse. Quand nous atterrîmes à Londres, une ambulance l'attendait à l'aéroport. Mais la tournée s'était déroulée sans scandale. En Angleterre, en France, en Italie, la pièce fut reçue et appréciée comme une belle expérience théâtrale. Jamais les spectateurs, si souvent sophistiqués, n'imaginèrent que ces actions horribles pouvaient être vraies. Mais à Belgrade, l'horreur faisait partie de la vie de tous les jours. Juste avant notre arrivée, un homme interrogé par la police avait été jeté par une fenêtre du sixième étage. En un très vif réflexe, il s'accrocha au rebord, un des policiers prit son couteau et lui coupa les mains. L'homme tomba en criant vers sa mort. De nos jours, tout ceci est devenu banal. On le voit chaque jour dans des pièces, dans des films. Mais au contraire de Shakespeare, nous sommes devenus incapables de reconnaître au même instant une autre réalité, la richesse et la magie sauvage de la vie. Vivienne, elle pouvait la sentir. Quand elle levait ses moignons mutilés, le public se taisait. Au-delà même de l'horreur. Puisque nous ne sommes plus de paisibles victoriens, Titus aujourd'hui a trouvé une place normale dans le canon shakespearien. L'œuvre est semblable à de nombreuses pièces contemporaines et à des films. Avec une différence. Le jeune auteur utilisait lui aussi les thèmes populaires et violents de son temps. Mais il était déjà Shakespeare, un poète. Il ne pouvait manquer d'aller au-delà, d'aller derrière la surface. Jusqu'à un tel sentiment de l'horreur qu'il parvient encore à nous stupéfier et même à nous émerveiller.
La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare de Peter Brook, en direct du studio 114 de la Maison de la Radio. Aujourd'hui, deuxième émission, en mitonnant Titus Andronicus. Texte dit par Godefroy Segal, musique, viol d'amour et chant, Julia Robert, extrait choisi par Catel Guillou, conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière, prise de son Philippe Bredin, Ludovic Auger, assistante à la réalisation Clémence Gross, réalisation Claude Guerre. « La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare, de Peter Brook, paré aux éditions du Seuil, dans une traduction de Jean-Claude Carrière.